Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Par les temps qui courent. Chaque soir, un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, avec l'auteur Emmanuel Bayamaktam.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Grandir sur une colline radieuse, sans parents attitrés ou presque, avec comme seule consigne d'aimer et de jouir sans entrave, n'empêche ni la crise d'adolescence, ni l'art de la fugue. Et ça tombe bien, parce que les adolescents et les fugueurs se révèlent être de très bons raconteurs d'histoires. Leurs corps sont en mouvement quand ils ne sont pas exactement en métamorphose. Celui de Farah, personnage principal, oscille entre les attributs des deux sexes, et cela n'empêche pas d'aimer, et d'aimer avec panache. Lorsque sa famille et elle intègrent la communauté de Liberty House, une zone blanche et ultra protégée du reste du monde, son enfance prend un tour nouveau, et ce n'est pas le seul virage que connaîtra sa jeune existence dans votre dernier roman, Emmanuel Bayamaktam, une sorte de sortie de l'Éden pour un paradis terrestre plus exigeant encore, qui consiste à tenir bon l'idée aux conséquences politiques fortes selon laquelle l'amour existe. Arcadie, c'est le titre de ce livre, il paraît en cette rentrée aux éditions POL. Bonsoir Emmanuel Bayamaktam.
Bonsoir Marie Richeux.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je profite qu'il soit question de jeunesse et d'écriture et de littérature dans ce livre pour suggérer à nos auditeurs étudiantes et étudiants de faire partie du jury du prix du roman France Culture Télérama. Ils peuvent le faire très facilement en ligne sur le site France Culture en envoyant une critique littéraire écrite ou vidéo. Ça permet de lire, de parler littérature, de parler avec les auteurs, etc. J'ai dit que Farah et sa famille entrent dans un endroit qui s'appelle Liberty House, notamment parce que la maman de Farah sensible.
Par contre, je sens un peu le... Ouais.
Mais... Vous sentez le micro ?
Ouais, je sens un peu le micro, mais bon, ça, je vais tenir, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai basculé, parce que ça a été brutal, hein. Dans l'électro-hypersensibilité, début janvier 2009, ça a commencé par des légers tiraillements. J'avais même l'impression par moment d'être aimantée, mais sans grande douleur. Donc je n'y ai pas prêté attention. Et après, ça a gagné tout le crâne. C'est-à-dire qu'il y a une rigidité au niveau de la nuque qui a gagné l'ensemble du crâne. Et c'est la pression qui m'a fait quitter mon travail. J'avais les veines du cou gonflées, du bras, etc. Et cette pression très forte, qui était intenable, m'a fait quitter mon travail.
Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Nous arrivons dans la nuit, après un voyage éprouvant dans la Toyota hybride de ma grand-mère. Il a quand même fallu traverser la moitié de la France, en évitant lignes à haute tension et antennes relais, tout en endurant les cris de ma mère, pourtant emmaillotée de tissus blindés. De l'accueil reçu le soir même, et de mes premières impressions quant au lieu, je ne me rappelle pas grand-chose. Il est tard, il fait noir, et je dois partager le lit de mes parents, parce qu'on ne m'a pas encore prévu de chambre. En revanche, je n'ai rien oublié de mon premier matin à Liberty House, de ce moment où l'aube a pointé entre les rideaux, empesée, sans vraiment me tirer du sommeil.
Emmanuel Bayamaktam, on vient d'entendre dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre le tout début de votre roman Arcadie, et juste avant cela, un extrait d'un reportage Les Pieds sur Terre consacré à deux femmes qui témoignaient de leur électro-hypersensibilité. Je le disais, l'une des entrées dans Liberty House se fait parce que la mère de Farah, votre personnage principal, a ce symptôme qui vous permet d'écrire qu'en fait elle est hypersensible à tout. Comment l'avez-vous choisi, cet attribut de la mère de Farah ?
L'électrosensibilité, les ondes électromagnétiques, c'était clairement un de mes points de départ. Hein, avec finalement tous ces ennemis invisibles, les particules fines, les parabènes, les sulfates, d'autant plus menaçants et inquiétants finalement qui sont invisibles. Donc, je me demande d'ailleurs si j'avais pas entendu ce reportage sur les électrosensibles. Sur votre radio. Et en tout cas, l'idée de ces gens qui souffrent tellement, qui sont obligés pour certains de vivre dans des grottes, voilà, c'était clairement une de mes sources d'inspiration. J'ai écrit ce livre avec toutes ces inquiétudes sourdes tenant à voilà, ces nouvelles menaces.
Et ça permet de planter des premières menaces ou des premiers étrangers qui sont complètement invisibles puisque ce sont des ondes, ce sont des particules qu'on ne voit pas. Et tout à l'heure, dans le roman, arrivera peut-être des particules plus visibles, des corps plus étrangers encore, qu'on voit davantage. Ça permet aussi de planter le décor de ce Liberty House qui est tout sauf une grotte qui ressemble à quoi dans votre univers de romancière ?
Alors, c'est une zone blanche, hein, donc j'ai imaginé quand même une sorte d'enclave protégé de tout. Ça ressemble au paradis terrestre, ça ressemble à un grand jardin enclos. Cette idée de hortus conclusus, hein, de jardin clos protégé, elle est centrale, hein, dans le récit. Ça ressemble à l'Éden, ça ressemble à un endroit où les enfants peuvent grandir en paix, un peu conformément au principe rousseauiste, hein, éloigné de la civilisation et des vices. Ça ressemble à un jardin où il y a des poules, des chats, des vaches, des arbres, et où les enfants peuvent grandir tranquillement.
C'est intéressant que vous répétiez tout de suite ce mot de l'enfance et de l'enfant parce que c'est vraiment un roman où c'est dépeint de manière extrêmement jubilatoire, au même titre que la nature d'ailleurs. Est-ce que vous diriez que, autant que l'idée de décrire un monde clos, vous avez voulu vous attarder sur ce que c'est qu'être enfant quand être enfant se passe dans ce genre de conditions un peu particulières ?
Oui, et d'ailleurs je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas obliger les parents à élever leurs enfants en pleine nature, hein, quitte à ce qu'ils passent en ville à l'adolescence. Mais je trouve ça criminel, finalement, de priver les enfants de ce contact avec les éléments, avec les animaux, parce que cette jubilation sensorielle qu'on a, enfant, à être, je sais pas, au bord d'un fleuve, dans la mer, dans la forêt, à se rouler dans l'herbe, on aura du mal ensuite, hein, à la retrouver adulte si on ne l'a pas connue très jeune. Et j'ai un peu oublié le début de votre question, mais oui.
C'est-à-dire, la question de savoir, est-ce que c'est un roman ? Alors, c'est un roman qui a vraiment plein de branches, et on va essayer d'avoir la patience de tout aller les regarder. Mais il me semble que celle de l'enfance et de ce que c'est que d'être enfant, de devoir à un moment donné peut-être dire au revoir à l'enfance ou alors de vouloir résister à ne pas dire au revoir à certains endroits de ce qu'on peut appeler l'innocence de l'enfance, j'avais l'impression que c'était aussi l'un des enjeux du texte.
Oui, j'ai souvent des personnages d'enfants, observateurs un peu caustiques de ce qu'est être un adulte et de l'irresponsabilité, de l'immaturité et de l'incohérence des adultes. Et là, effectivement, on a cette petite narratrice qui arrive à l'âge de 6 ans dans cette communauté qu'est Liberty House et qu'on verra grandir, hein, progressivement.
C'est aussi la possibilité pour vous de décrire la nature et donc d'avoir des moments de littérature qui ne sont pas exactement, n'engagent pas exactement la même langue que lorsque vous êtes dans des dialogues beaucoup plus vifs. Est-ce que vous avez senti, je ne sais pas, un plaisir différent à décrire cette nature de Liberty House que d'autres moments dans le texte ?
Oui, là aussi, c'était une de mes intentions premières. Hein. Je voulais écrire un roman plus bucolique, plus pastoral que les précédents. Hein. En particulier, Je viens, qui était un roman très urbain qui se passait à Marseille. Là, j'avais envie davantage de vivant et de nature. Donc, c'était vraiment un des enjeux du texte. Et effectivement, ça nécessite une autre langue que le dialogue, une autre langue pour rendre compte de cette profusion, de cette exubérance du vivant.
Et ça veut dire que c'est aussi un autre état d'écriture ? Est-ce que ça crée chez vous, je ne sais pas, même une autre façon d'appeler d'autres langues ? Peut-être on décrira aussi tout à l'heure la manière dont votre texte va chercher chez plein d'auteurs, ou bien de manière tout à fait visible, ou bien de manière plus souterraine. Ça veut dire que vous avez fait vous-même appel à des souvenirs de lecture, à des imaginaires, pour décrire cette nature ?
J'ai fait appel à des souvenirs tout court, puisque moi j'ai eu la chance de pas être complètement privée de ce contact avec avec la nature et des souvenirs de lecture bien sûr, hein, alors Virgile au premier chef, mais pas seulement. Colette aussi, bizarrement, a été non seulement centrale mais même inséminatrice, puisque je suis partie d'une phrase d'elle qui est tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient. Alors la phrase a complètement disparu du texte, mais il en est resté quand même la présence des arbres, qui me semble importante. Et puis la phrase ressurgit à la fin, mais il n'est plus question de forêt. Je crois que je fais dire à Farah tout ce qu'on dit d'une vie est vrai ou le devient. Mais je me rappelais aussi d'un passage de je ne sais plus quelle œuvre autobiographique de Colette, peut-être Sido, où elle dit qu'elle aimait tellement l'aube que sa mère l'a lui donnée. Et sa mère l'a laissée sortir à 4-5 heures du matin pour profiter de ces moments privilégiés où le soleil se lève. Et voilà.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Farah ? Puisque c'est elle qui nous présente tout le monde au départ. Hein. Je disais tout à l'heure, ça tombe bien de prendre des adolescents et des fugueurs pour raconteurs d'histoires, mais c'est vraiment ce qui se passe. On a vraiment l'impression que c'est grâce à ses yeux et grâce à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être de ses descriptions caustiques, que nous prenons connaissance du monde de votre roman. Mais si vous nous la présentez, ça donne quoi ?
Alors, elle appartient quand même à une lignée d'héroïnes. Hein, qui, voilà, j'ai souvent, je répète, hein, ce type de personnage de très jeunes filles que je saisis à des âges cruciaux de leur vie. Et là, ce qui distingue Farah de Sharon ou Kimberly, qui apparaissent dans mes autres romans, c'est qu'elle est ou se sent être très laide. En tout cas, les autres la jugent assez disgraciée. Et par ailleurs, c'est une lectrice, c'est-à-dire qu'elle a la chance non seulement de grandir dans une sorte de grand jardin paradisiaque, mais aussi dans une maison où il y a une grande bibliothèque dans laquelle elle peut puiser à son gré. Donc c'est une enfant qui va lire, et elle va lire Emily Dickinson, elle va lire toutes sortes de livres qu'il y a dans la bibliothèque de la maison où elle grandit. Et autre signe caractéristique de Farah, à la puberté, il va lui arriver ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire que son corps va se métamorphoser d'une façon assez étrange. Bon, ça, c'est le lot commun. Mais elle, ce qui lui arrive, c'est que finalement, à la puberté, au lieu de devenir une femme, elle devient ni une femme ni un homme, pour le dire très vite.
Ouais, voilà, on y reviendra pour le dire un petit peu moins vite. Et il y a un autre personnage peut-être avec lequel il faut prendre connaissance en ce début d'entretien, Emmanuel Bayamaktem, c'est Arkady, qui donne le titre au roman dans une orthographe un petit peu différenciée. Mais si on lui met un Y, c'est qui ?
Alors, Arkady, contrairement à Farah, qui apparaît pour la première fois dans un roman, un de mes romans, Arkady, c'est un personnage récurrent. Hein, il est déjà présent au moins dans La Princesse 2, mais il était déjà là dans Une fille du feu, il était même présent dans Hymen. Donc c'est un personnage que je fais revenir de livre en livre, alors avec des variantes, mais avec des constantes aussi. Et Arkady, c'est le personnage qui, systématiquement dans mes récits, est porteur d'amour et de désir. C'est-à-dire qu'il aime indistinctement et inconditionnellement à peu près tous les êtres, hein, les jeunes, les vieux, les beaux, les moins beaux, les malades, les disgraciés. Et il est porteur d'une espèce de force vitale que moi je trouve assez séduisante. Et effectivement, il donne son titre au livre sans le lui donner vraiment, puisque le titre c'est Arkady IE et son prénom c'est Arkady Y.
Je crois qu'il est à un moment donné décrit comme une forme de gourou, mais en fait on ne sait pas exactement la place qu'il peut tenir dans la communauté de Liberty House, ni exactement l'autorité morale ou physique qu'il peut avoir sur les personnes qui sont réunies dans cet endroit. Vous diriez qu'il est quoi par rapport aux autres ? Celui qui les réunit ?
Oui, alors le mot de gourou ou encore le mot de secte ne sont pas du tout des mots que Farah emploierait pour désigner la communauté dans laquelle elle grandit et le fameux Arkady. Elle parlera plutôt de directeur de conscience en parlant d'Arkady et de communauté en parlant de ce adultes
groupe-là
qui l'entourent. Et ce qui sépare Arkady d'un gourou, c'est qu'il n'est pas du tout manipulateur, il n'est pas du tout dans l'abus, il n'a pas du tout de... On ne peut même pas dire qu'il soit porteur d'une doctrine.
C'est exactement ni dogmatique, j'allais dire.
Non,
ça,
voilà, il n'est pas dogmatique du tout. Non, c'est vraiment un personnage qu'il faut prendre pour argent comptant. Il aime.
Le fait qu'ils reviennent de roman en roman, c'est une convocation que vous faites lorsque vous vous mettez à la table du travail et que vous commencez un nouveau livre. C'est lui qui s'invite, c'est vous en tant qu'auteur qui vous amusez ou qui désirez le voir évoluer de texte en texte. Comment ça se passe cette migration d'Arcadie de roman en roman, Emmanuel Bayet-McTam ?
Alors c'est vrai que quand je commence à écrire un livre, je ne sais pas forcément quels personnages y figureront. C'est des choses qui finalement se décident en cours de route, avec parfois des bifurcations un petit peu imprévues. Cela dit, je savais depuis déjà quelques temps que j'en avais pas fini avec Arcadie, parce que c'était un personnage tellement exubérant et finalement tellement fort que je pense que j'en ai pas fini avec lui.
Est-ce que c'est un personnage qui induit du mouvement ? Vous disiez tout à l'heure qu'il est porteur de désir et d'amour, mais on sent aussi qu'il est presque porteur d'une sorte de force motrice, quoi, oui. Comme une sorte de machine à écrire. Il vous met aussi en route, et peut-être nous met en route, nous, en tant que lecteur et lectrice.
Alors, une des idées que je fais formuler par Farah, mais qui est aussi la mienne, c'est que finalement beaucoup de gens aspirent à être dessaisis de leur existence et de tout ce que ça induit de responsabilité et de charge et de préoccupation. Et il se trouve que finalement il y a des gens comme Arcadie à qui les responsabilités ne font pas peur. Et du coup, dans la communauté que j'ai imaginée, il y a finalement toutes ces ouailles qui sont des gens très gentils et très sympathiques, mais assez velléitaires, assez apathiques, assez abouliques. Et Arcadie est là avec son énergie et effectivement cette espèce de force motrice dont vous parlez.
Oui, une sorte de foyer. Hein. D'ailleurs, je crois que vous utilisez ça. Une espèce de source à laquelle s'abreuver. Ça vaut pour Arcadie, ça vaut aussi pour Farah.
Ça vaut aussi pour Farah.
D'une certaine manière, hein. Elle est l'enfance, elle est la joie, elle est aussi le désir et la vie. Bon, vous ne saviez peut-être pas quel personnage serait dans votre texte. En revanche, probablement, saviez-vous qu'il serait encore question de corps.
Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
C'est très agréable d'être vieille, parce que comme nous ne sommes plus dans la production et plus dans la reproduction et pour cause, nous sommes libres. C'est pour ça que les femmes trouvent souvent une très grande liberté dans la vieillesse, à moins qu'elles ne se réfugient dans la maladie, parce que comme ça on s'occupe d'elles. Je vois aussi ce type de vieille, je le vois trop souvent à mon avis. Alors que c'est une magnifique période pour les femmes. Les hommes sont moins gâtés, la nature est moins bienveillante avec eux dans la vieillesse. Ils meurent plus vite que nous, leur puissance, leur virilité, leur sacro-sainte virilité souvent est en défaillance, ce qui les attriste, ce qui les chagrine, encore que maintenant il y a le Viagra qui essaie d'arranger les choses. Nous seuls les deux sexes sommes très gâtés, nous avons un petit instrument qui effectivement nous donne du plaisir jusqu'à la fin. Le clitoris devrait être monté en épingle, si je puis dire, de manière à ce que les femmes osent s'en servir jusqu'à la fin de leur vie, ce qu'elles n'osent pas faire.
Diff- différents sons de cloche chez Michel Foucault 1966 et chez Thérèse Claire près de 50 ans plus tard, qui parle du corps vieillissant, corps prison, un corps ultra-topique du côté de Foucault et au contraire une sorte de liberté absolument éternelle du côté du corps vieillissant de la femme chez Thérèse Claire. Je disais Emmanuel Bayamaktam qu'il y a plein de corps dans ce roman Arcadie et que finalement, on parlera celui de Farah tout à l'heure, mais les premiers corps qu'on voit apparaître, qui nous sont extrêmement sensibles pour nous lecteurs, c'est le corps de la mère, extrêmement sensible lui aussi, et le corps de la grand-mère, qui nous apparaît assez rapidement dans les premières pages. Elle se met nue quand elle a envie, et ça vous permet, et ça nous permet de la voir décrite. C'est pas la première fois non plus que vous faites apparaître des corps de nonagénaires, de femmes vieillissantes, de seins qui tombent, de testicules qui se balancent, et de peau plus aussi tendue qu'à 20 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces corps-là ?
Tous les corps m'intéressent, hein, vous l'aurez compris. Et je ne cesse de m'enchanter de la diversité des corps, des visages. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment m'inspire constamment. Je me retrouve assez dans l'extrait de Foucault que vous avez passé, hein, l'idée que finalement c'est depuis ce corps, comme une espèce de prison, de grille, d'assignation à résidence que nous devons parler. Et du coup, bah, pourquoi ne pas parler du corps, puisqu'on parle depuis le corps. Je me retrouve aussi tout à fait dans ce que dit Thérèse Claire de façon assez drôlatique, sur le fait que les hommes, les pauvres, sont vraiment moins bien dotés que nous. En matière de vieillissement, et je ne sais plus ce que j'avais l'intention de vous dire.
La grand-mère peut-être.
La grand-mère, effectivement. Alors il y a souvent des grand-mères et des femmes très âgées dans mes romans. Ça n'est pas la Kirsten qui est la grand-mère de Farah. La grand-mère LGBT de Farah n'est pas la première. Hein. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pauvre mort, dont l'héroïne était déjà une octogénaire. Ça m'intéresse, hein, de décrire, le flétrissement, la décrépitude, et de le décrire d'une façon à la fois comique, tragique, grotesque, poétique, j'espère.
Parce que vous en faites aussi un lieu de grande liberté. Enfin, elle est extrêmement pourvoyeuse de liberté, cette femme Kirsten. C'est-à-dire que oui, bien sûr, sa peau tombe, mais pas du tout ses idéaux, ni son amour, ni son désir, ni ses possibilités politiques infinies. C'est-à-dire que ce n'est pas que une femme vieille réduite à sa vieillesse, si je peux dire.
Alors, elle est d'autant moins réduite à sa vieillesse qu'elle vit dans une communauté où les vieux, les vieilles ont droit à l'amour, au désir et au plaisir, grâce à Arcadie, qui dispense très équitablement ses services. Et cette grand-mère, de toute façon, ne s'est pas vue vieillir et continue à penser qu'elle est sublime. Mais c'est peut-être le secret. Hein. Je pense que si vous pouvez imposer au monde l'idée que vous faites de vous-même, hein, si vous vous comportez comme si vous étiez sublime physiquement, les gens vont probablement vous trouver très belle. En tout cas, c'est le secret du bonheur et de l'équilibre de Kirsten.
Vous en faites un roman, en effet, où il y a plein de corps. Tous les corps vous intéressent, peut-être en tant qu'individu, citoyenne, femme. Mais j'ai l'impression aussi que tous les corps vous intéressent du point de vue littéraire, à décrire comme force dans le texte. Qu'est-ce que ça fait de voir presque vivre avec autant de corps pris dans les pages, dans un livre, Emmanuel Bayamaktam ?
Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Il y a un plaisir, hein, effectivement, une jubilation par la description, à montrer en gloire des corps qui sont pas finalement très normés, qui peuvent apparaître un peu comme disgraciés. Moi, c'est vrai que puisque tel est mon désir, j'ai du plaisir à les écrire, à les décrire, d'une façon qui, j'espère, n'est pas très orthodoxe.
Je pose la question parce que je pose la question vraiment de l'espace du livre, tout simplement parce que pour moi, c'est pas évident que dans notre vie quotidienne, ce soit exactement ça qu'on puisse vivre avec le corps des autres. Et c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que votre livre devient un espace un peu singulier, devient un espace d'un plaisir, en tout cas que moi, personnellement, je peux pas prendre tous les jours, quoi.
Ah non, mais moi non plus.
J'ai pas l'impression qu'on vive avec autant de liberté avec le corps des autres, dans la manière dont on le regarde, le sien, etc.
On est bien d'accord, mais on peut s'autoriser des libertés dans le roman. Il y a des moments où le corps des autres me dérange, où le mien me gêne, mais effectivement, ça n'était pas mon propos dans ce livre-là.
parce que j'aime mon corps, j'ai pu être aimée et désirée. Ça, je trouve c'est intéressant pour tout le monde, pas seulement pour les intersexes. Hein. Dans une société où le corps doit être comme ci, comme ça, et où tout le monde a des névroses par rapport à son corps, il y a toujours une partie du corps qui ne va pas. Dire on peut aimer l'archétype du corps qui est le pire des corps puisqu'on doit le faire disparaître, dire moi je l'aime et du coup on m'aime pour ce que je suis, je trouve que c'est libérateur pour tout le monde. Et moi j'ai jamais eu de choix à faire, garçon, fille, homme, femme, moi j'appréhende pas cette chose là, moi je suis moi et je suis très bien en tant que moi, donc si on m'avait laissé mon utérus, il est probable que j'aurais eu envie de porter mon enfant.
Dès qu'on parle d'intersexuation, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose à la télé. À croire que la télé ne parle que de ça. Sauf que moi, je n'ai pas la télé, ni internet, ni rien. Ce qui fait que je suis toute seule avec mes symptômes, ni transgenre, ni she-male, ni hermaphrodite, ni ladyboy, et encore moins transsexuel ou trave ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Je suis seul. Personne. J'amène à traverser ce que je traverse. C'est peut-être une mutation ? Après tout, je suis bien placé pour savoir que nous vivons une époque dangereuse, dans un contexte environnemental qui dérègle les saisons, favorise les cancers, les allergies croisées, les règles à 8 ans, la ménopause à 30 et l'infertilité dans l'intervalle. Du coup, si ça se trouve, nous sommes des milliers à assister impuissants à la mutinerie de nos organismes. Bombardés qu'ils sont d'ondes électromagnétiques, de perturbateurs endocriniens et autres polluants invisibles. Mais bon, on va bien voir qui commande de mon corps ou de moi. Ce ne sont pas les testicules ou les pectoraux qui vont m'empêcher d'être une fille, si tel est mon projet. C'est en substance ce que j'explique à Maureen, qui me soutient à 100%. Ouais, t'as trop raison, c'est trop nul d'être un mec. Ils sont trop cons, j'aime pas les mecs. Bon, en même temps, je suis pas fan des nanas genre trop meufs, tu vois ? Oui, je vois très bien. Mais il faut vraiment que j'enseigne à Maureen un usage plus parcimonieux de certains adverbes, parce qu'à force, c'est fatigant de l'écouter.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richaud.
Grâce à Romain de Bec-de-Lièvre, on peut aussi entendre le plaisir qu'on a à lire vos dialogues, Emmanuel Bayamaktam, ici, entre le personnage de Farah et sa petite amoureuse, comme vous l'appelez de temps en temps, Maureen. On est très avancé maintenant dans le roman, mais on entend ce passage-là pour avoir aussi en tête la description que vous faites de ce corps en métamorphose de Farah, qui a pour premier objectif d'être dépucelé au départ et ne cesse de demander à Arkady d'être celui qui lui fera l'amour pour la première fois ou avec lequel elle fera l'amour pour la première fois. Puis ensuite, sa deuxième obsession, c'est de savoir ce que c'est que d'être une femme. Vous en avez fait une forme de quête. Elle a des questionnaires, elle pose des questions. Comment c'est venu cette interrogation que vous faites porter à Farah ?
Alors, c'est venu d'une réminiscence de lecture, en fait. Finalement, quand j'avais 17-18 ans, j'ai lu et beaucoup aimé Orlando de Virginia Woolf, qui est finalement un des premiers romans sur l'intersexuation. Et j'avais envie, alors pas de le réécrire, hein, ce qui ne veut rien dire, mais en tout cas, c'était une de mes sources d'inspiration. Cela dit, voilà, j'ai pas attendu Arkady pour avoir des personnages un peu indéterminés quant à leur identité sexuelle. Hein. Finalement, dès le premier livre que j'ai publié chez POL en 1996, il y avait déjà un personnage qui s'appelait Daniel, qu'on retrouve dans Arkady du reste.
C'est le compagnon un peu de route de Farah.
Oui. Et le Daniel de ce premier roman, il grandissait en Afrique australe et il avait l'impression d'être une fille et il ne se sentait bien que quand il s'habillait en fille. Et voilà, j'ai continué de livre en livre à avoir ces personnages un petit peu flottants. Parce que finalement, c'est cet entre-deux qui m'intéresse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous commencez à poser la question, ou à vous la poser à vous-même, mais aussi à la poser aux autres, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, ben, en définitive, vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante. Donc moi, j'ai imaginé Farah se lançant dans une espèce d'enquête sociologique et interrogeant les adultes qui l'entourent, et n'obtenant que des réponses finalement, oui, très insatisfaisantes. Donc, elle décide d'aller chercher dans les livres la réponse à cette question, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, et dans le livre non plus, elle ne trouve pas de réponse satisfaisante. Mais je répète, finalement, il n'y a pas de réponse à cette question.
Qu'est-ce que vous trouviez, en tout cas, qu'est-ce qui vous avait laissé ce texte Orlando de Virginia Woolf comme souvenir, qui vous a donné envie, peut-être avec ce texte en 96 et peut-être avec celui-ci et plus de 20 ans plus tard, de creuser le sillon de ces personnages, comme vous dites, flottants?
C'est un livre étrange dans la production de Virginia Woolf, puisque ça raconte finalement l'histoire d'une fille qui devient un garçon, ou d'un garçon qui devient une fille. Tout d'un coup, j'ai un trou. Mais qui vit 3 siècles et qui, sans que Virginia Woolf ne donne d'explication précisément à son changement de sexe. Donc, oui, c'était ça l'idée. Moi, je voulais aussi faire intervenir dans ce récit une mutation, une métamorphose, sans lui donner d'explication. Alors, il y a un petit moment syndrome. Voilà. Il y a une première explication médicale, mais qui tient pas la route très longtemps. Il y a une hypothèse environnementale. Peut-être que finalement, s'il y a de plus en plus de, si on entend de plus en plus parler d'intersexuation, ce serait peut-être dû à des causes environnementales. Mais là, moi, j'ai pas d'idée sur la question et j'ai pas du tout envie de trancher. Je préfère que ce processus inabouti de métamorphose, puisque finalement, Farah, à la fin du récit, ni fille ni garçon, reste un peu inexplicable et lui permettent de se balader comme ça, comme un électron libre sur l'échiquier de la séduction, en étant ni fille ni garçon.
Est-ce que ça lui permet, ce corps que vous lui offrez dans ce roman-là, d'être peut-être la plus libre d'entre toutes? On entendait là Maureen dire « oui, bon, finalement, t'as raison, c'est pas terrible d'être un mec », mais en fait, Farah, elle porte même pas ce genre de jugement sur le corps des hommes ou le corps des femmes. On a l'impression qu'elle se balade encore plus que tout le monde.
Alors oui, ça finit par être assumé comme une liberté supplémentaire. Elle, sa thèse finalement par rapport à cette intersexuation, c'est que comme on lui a fichu la paix, comme on l'a laissé grandir assez librement, sans trop l'enquiquiner par rapport à cette question du genre, son corps n'a pas choisi. Avec l'idée que peut-être, si on laissait les enfants grandir sans les assigner forcément dans une identité sexuelle ou une autre, leur corps resterait dans l'entre-deux. Alors, c'est une hypothèse comme une autre, en tout cas c'est celle à laquelle finalement s'arrête Farah. Et c'est vrai que ça lui donne une liberté supplémentaire. Et ça la rend paradoxalement très séduisante, parce que cette petite fille ingrate, un peu disgraciée, elle finit par séduire tout le monde, hommes, femmes.
Et ça vous donne la possibilité à vous, Emmanuel Bayamaktam, non seulement de rentrer dans des descriptions qui sont parfois extrêmement, sinon crues, en tout cas très réalistes, de nous permettre de nous imaginer un corps avec une cupule vaginale de 3 cm de profondeur, donc de se poser par exemple la question de la pénétration dans la sexualité, donc de se poser la question de la systématique pénétration dans le rapport au plaisir. C'est-à-dire que ça vous permet aussi d'avancer sur ce terrain-là, très pratico-pratique presque, mais avec le détour de ce corps en métamorphose presque poétique du côté d'Ovide, du côté des récits mythiques. C'est-à-dire qu'on sent que vous oscillez complètement entre une réalité crue et toutes les créatures mythiques qu'on peut nous convoquer dans l'imaginaire.
Oui, ça me plaît assez, effectivement, cette idée, et puis cette référence à Ovide, qui est constante chez moi. Effectivement, qu'est-ce que vous faites quand la pénétration est sinon impossible, du moins difficile et peu jouissive? Vous faites autre chose. Et je pense qu'il y a des tas de gens en ce moment même qui sont en train d'expérimenter autre chose, avec des corps un peu déviants, un peu différents, et que finalement, même s'ils ne le crient pas sur les toits, ils accèdent très probablement au plaisir, avec ou sans pénétration.
Et justement, le « en ce moment même » que vous prenez soin de souligner, bien sûr, ce n'est pas la première fois que vous avez ce genre de personnage dans vos textes, mais peut-être que là, aujourd'hui, 2018, ce sont des personnages qui résonnent autrement parce que, par exemple, des personnes, comme on l'entendait dans l'archive, Vincent Guyot, ont peut-être plus la possibilité de témoigner, que les questions de transsexualité, de transgenre, de transsexuation, de passage d'un genre à un autre, de dissociation du genre et de la sexualité. Bref, ça commence un petit peu à entrer dans un débat qui n'est pas seulement réservé aux spécialistes. Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que ce personnage-là peut-être a plus d'écho que dans vos parutions précédentes où c'était moins dans l'air du temps? Est-ce que ça vous a fait peur ?
Oui, bien sûr. Je me suis dit que j'allais peut-être être taxée d'opportunisme avec ce personnage finalement transgenre. Et en même temps, j'ai la sérénité d'esprit que me procure le fait d'en parler depuis que j'écris. Parce que pas seulement, j'ai pas attendu d'être publiée pour avoir des personnages transgenres dans mes romans. J'ai aussi des romans inédits où il y avait déjà des garçons-filles et des filles-garçons. Je pense que ce qui a changé, c'est simplement la liberté de parole. Hein. Et de fait, voilà.
Mais c'est pas rien quand on écrit.
Et c'est pas rien, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, dans mon entourage, il y a des gens qui sont transgenres et qui le disent, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans quand j'ai commencé à publier, effectivement. Oui.
Est-ce que vous avez eu peur, quoi, que ça fasse de Farah un personnage plus banal ? Ce qu'elle n'est pas du tout.
Ma grande crainte, pas au début du livre, mais quand il était déjà bien avancé, c'est que on se dise que j'avais voulu écrire un livre à ce sujet parce que j'aime pas ça et parce que c'est pas du tout mon propos. Et mais bon, j'espère que Farah déjoue ce genre de jugement.
En revanche, j'entendais dans l'émission La Dispute sur France Culture, Lucille Comeau dire que vous aviez écrit là un livre du présent et ça me semblait assez intéressant comme idée. Ça vous fait pas peur?
Non, pas du tout. Mais je pense que la première partie du livre, finalement, a quelque chose d'un peu atemporel, précisément parce que j'ai imaginé ce paradis terrestre qui est, qui peut rappeler des temps très très lointains et très très primitifs et très mythiques. Et puis, plus le récit avance, plus effectivement, il est ancré dans quelque chose de plus contemporain. Avec la question des réfugiés, avec celle de l'intersexuation. Ouais.
Et peut-être plus politique même.
Et sûrement plus politique.
Two weeks after my arrival, Fox died. Just after sunset. I was stretched out on the bed when he approached and tried painfully to jump up. He wagged his tail nervously. Since the beginning, he hadn't touched his bowl once. He had lost a lot of weight. I helped him to settle on my lap. For a few seconds, he looked at me with a curious mixture of exhaustion and apology. Then, calmed, he closed his eyes. 2 minutes later, he gave out his last breath. I buried him inside the residence at the western extremity of the land, surrounded by the protective fence, next to his predecessors. During the night, a rapid transport from the central city dropped off an identical dog. They knew the codes and how to work the barrier. I didn't have to get up to greet them. A small white ginger mongrel came toward me, wagging its tail. I gestured to him. He jumped on the bed and stretched out beside me. Love is simple to define, but it seldom happens in the series of beings. Through these dogs, we pay homage to love and to its possibility. What is a dog but a machine for loving? You introduce him to a human being, giving him mission to love. And however ugly, perverse, deformed, or stupid this human being might be, the dog loves him.
Thank you.
À minuit sonnante, nous sommes de nouveau en vue du bassin, tapis derrière un rideau de bambou cliquetant. Sur la berge, nous avons déposé un panier d'offrandes propitiatoires soigneusement choisies. Une part de pizza, un morceau de provolone, un reste de pâte de coing, des olives farcies au poivron, une bouteille de Barolo, des biscuits Pavesini, trois joints de l'herbe de mon père, un briquet, des bonbons au café et une boîte de préservatifs. L'idée, c'est qu'il comprenne que non seulement nous ne lui voulons aucun mal, mais que nous connaissons ses goûts et le trouvons au nôtre. Il déboule nonchalamment vers 1h du mat. Sans voir notre panier, il se débarrasse en un tournemain de son maillot du Barça et de son short effrangé, avant de s'avancer vers l'étang, plus lactescent que jamais sous sa dentelle de lentisque. Comme hier, il disparaît sous l'eau. Mais contrairement à hier, il ne ressurgit pas. Il s'est noyé. Il a été happé par des tiges de nénuphar, puis retenu dans la vase par des souches pourrissantes. Fin de l'histoire. Délivrance. Je vais pouvoir reprendre une vie normale, même si la normalité ne signifie rien dans notre asile à ciel ouvert, notre station climatique pour déficients en tout genre. Putain, il est où ? Faut qu'on aille voir, il a peut-être fait un malaise. Quittant le couvert de la bambouseraie, Daniel s'avance dans l'eau jusqu'à mi-cuisse et on scrute la surface. Rien. Tout juste un chapelet de bulles désespérées que je me garde bien de lui signaler. Il ferait beau voir que nous portions secours à celui qui va nous détruire. Autant le laisser livrer son combat dans les profondeurs. J'ai à peine le temps de croire à mon histoire et d'être envahi par l'épouvante et la culpabilité que Vendredi surgit derrière nous. Loin de se noyer, il a dû nager d'un bout à l'autre du bassin et en faire le tour pour venir nous surprendre. De saisissement, Daniel tombe à genoux dans l'eau verte et se retrouve à rouler des yeux au-dessus de la coupelle vernissée d'un nénuphar, tête coupée d'avance, offerte sur un plateau. Vendredi n'a qu'à se servir, et je ne doute pas qu'il le fasse, tout juste s'il n'a pas procédé lui-même à la décapitation. Je sais ce que je sais. Peu importe d'où me vient ce savoir entre espoir et terreur, entre réflexe de survie et désir du pire. Nu comme au jour de sa naissance, les bras croisés entre son nombril argenté et son bouclier pectoral, Vendredi nous toise sévèrement et je me sens mollir sous ce regard. Je suis très bon public pour la réprobation. Toujours agenouillé dans l'étang, Daniel hèle timidement notre visiteur du soir. Salut, tu parles français ? Anglais ? I'm Daniel.
Emmanuel Bayamaktam, on entend ici après Iggy Pop, Romain de Bagdelièvre, lire l'arrivée nocturne, une des arrivées nocturnes, d'un étranger de la communauté Liberty House, qui est, vous le disiez tout à l'heure, ce que l'on appelle les réfugiés, les migrants, et ils sont tous les deux en train de vraiment vivre l'apparition, c'est comme ça en tout cas que vous nous le faites vivre à nous. Et l'arrivée de cet étranger va déclencher la discorde dans la communauté, pourquoi pas même sa perte. Comment est-ce que vous vous êtes dit qu'une partie de la sortie de l'Éden, de ce jardin paradisiaque dont vous parliez tout à l'heure, serait due à cela ?
Alors, je ne me suis pas dit aussi clairement que vous le formulez. Je pensais que ce serait la jeunesse de Farah qui de toute façon précipiterait sa sortie de l'Éden ou l'éclatement de la communauté. Parce que la jeunesse, finalement, elle représente un danger dans cette communauté d'adultes, voire de vieillards un peu invalides.
Parce que quoi ? Trop de désirs d'extérieur, oui, trop, de découverte, oui, oui. D'envie voilà, de oui. Faire éclater les murs, quand même. Oui,
voilà, de toute façon, à 15, 16, 20 ans, il faut partir. Je savais qu'elle partirait. Et je savais que sa jeunesse était un danger pour la communauté. Après, pour ce qui est du personnage de Vendredi, puisque dans un premier temps, Farah l'appelle comme ça, dans la mesure où j'avais situé l'action à la frontière franco-italienne, je me doutais bien que je ferais intervenir des réfugiés. Je savais pas sous quelle forme, et le passage que Romain vient de lire est très représentatif finalement de la façon que j'ai de construire un personnage, parce que là on voit bien que oui, bien sûr, c'est un personnage très contemporain, c'est un personnage de migrant, de réfugié, mais c'est aussi un personnage archi-littéraire. C'est le Vendredi de Robinson Crusoe. C'est aussi la Vénus anadyomène de Botticelli ou de Rimbaud. À un moment d'ailleurs, je me réfère à Ophélia de Rimbaud quand je le fais flotter entre les grands lys. C'est aussi Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale, puisque là c'est sa seconde apparition en fait. Il y a eu une première apparition d'Urne où je reprends les mots de Flaubert pour décrire l'éblouissement que cette apparition constitue pour Farah. Donc c'est quand même un personnage très littérairement déterminé.
Et d'ailleurs, avant toute chose, c'est un personnage désirable. C'est-à-dire que je dis qu'il sème la discorde, et on pourrait reprendre en effet toutes les discussions extrêmement contemporaines sur oui ou non accueillir, oui ou non refuser l'arrivée de certaines personnes. Mais avant toute chose, ce que je trouve assez finalement bien joué, si je peux me permettre cette expression, Emmanuel Bayamaktam, c'est que vous faites la première question, c'est est-ce qu'il est un corps désirable? Est-ce que nous pouvons résister à ce corps que nous trouvons beau? C'est ça que se disent dans un premier temps Farah, Daniel et ses copains.
Oui, et j'avais en tête la phrase, la formule de Rilke, hein, le beau est le commencement du terrible, et ce personnage effectivement beaucoup plus beau qu'Arcadie, hein, qui est pourtant un objet du désir pour Farah. Voilà, c'est cette beauté altière, exotique, observée depuis les rives de l'étang par Farah et Daniel, elle était elle aussi très porteuse de danger, oui.
Et vous détournez un tout petit peu la question politique qui s'impose aussi et qui, en tout cas, qu'appelle votre roman, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, j'avais un peu peur en écrivant sur l'intersexuation d'avoir un écho avec le temps présent qui m'empêche de simplement dérouler ma fiction. Et ici, je trouve que vous le détournez de la même manière. C'est que il y a beaucoup d'humour dans la manière dont arrive ce vendredi parce qu'il draine tant de représentations littéraires. Le fait que ce soit tout de suite la question du désir, de son corps, de sa beauté, eh bien, peut-être déplace un tout petit peu la manière dont, de manière générale, dans le discours, on regarde l'étranger. Et là, d'un seul coup, le regard, il est peut-être plus, je sais pas, honnête. Il est plus humain,
oui,
en tout cas.
Oui, alors, mais je sais pas, en même temps, ces garçons, on va parler des garçons, hein, qui arrivent de Syrie, d'Érythrée et d'Afghanistan, moi je pense qu'ils sont objets de désir. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans l'épisode de la nuit de Cologne, où finalement on a fantasmé des viols. Je pense que, bien sûr qu'il y a du désir et du fantasme lié à ces très jeunes gens, et ces très jeunes hommes en particulier, qui arrivent en Europe. Non, simplement, je voulais pas du tout avoir un personnage qui ne soit porteur que de questions sociétales et ultra contemporaines. Hein. Donc, pour moi, il appartient aussi à une lignée de personnages littéraires.
Mais ce que ça sous-tend, c'est que parfois nos questions ultra contemporaines, politiques, de frontières, elles ont, je veux pas du tout les réduire, hein, mais parfois à voir avec des questions de désir, des questions de regard sur les corps. C'est assez intéressant de regarder la manière dont notre époque contemporaine passe son temps à parler des corps et de la sexualité et en même temps le mettre tout le temps dehors du discours. Je sais pas, on a énormément parlé au moment du mariage pour tous de ce que c'était qu'un bon couple, une bonne sexualité, de bons parents. Je trouve que ce roman-là, il entre là-dedans avec énormément de liberté.
Et j'espère d'humour, hein. Vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que je tiens à ce mélange des registres sur des questions qui sont effectivement graves, effectivement cruciales.
Et difficiles, étendues et violentes dans le débat public. Elles le sont,
oui,
je veux dire.
Oui, elles le sont, oui.
Et vous y allez autrement, plus champêtre, quoi.
Ben, j'y vais par le détour de la fiction, oui, de façon plus champêtre ou plus lacustre, hein, parce que je pense que c'est aussi un roman lacustre. Hein. Les scènes d'observation de l'étang sont récurrentes et importantes dans mon récit.
Pourquoi elles sont importantes pour vous, ces scènes de l'étang? Parce qu'en effet, elles le sont, et puis y compris parce qu'elles sont aussi le lieu de la saison du jouir, comme elle l'appelle Farah. Mmh. Il y a ce lit baldaquin dans la pelouse, où on sent la nature extrêmement, extrêmement présente. Pourquoi est-ce que ce sont des scènes primordiales?
Oh, bon, je reviens en partie à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir ce désir d'écrire un roman bucolique et pastoral. Et c'est vrai que l'étang est très vite devenu dans le récit un endroit d'où Farah et parfois Daniel observent alors soit vendredi, soit leurs parents s'ébattre librement. Il y a une scène peut-être un peu dérangeante, enfin moi j'ai pas été dérangée en l'écrivant, où Farah et Daniel enfants regardent finalement leurs parents partouser dans l'étang. Mais j'ai pas d'explication satisfaisante à vous donner. en fait, je m'en rends compte.
Quand vous dites que vous n'avez pas été dérangée en écrivant cette scène, ça veut dire que parfois vous l'êtes ? Vous êtes dérangée en écrivant certaines scènes ?
Non, je suis absolument pas dérangée par les scènes que j'écris, ce qui signifie pas que j'aurais aimé les vivre. Je pense pas que j'aurais aimé enfant voir mes parents partouser dans un étang, mais en revanche, non, au moment d'écriture, il n'y a aucun malaise.
Voire une forme de jubilation ?
Oui. Ouais. Il peut y avoir des moments laborieux, des moments où finalement la forme peine à se trouver. Ma souffrance, elle peut être là, mais de façon générale, oui, j'écris plutôt dans un état de satisfaction, voire de jubilation.
La communauté de Liberty House, elle est mise à l'épreuve, Emmanuel Bayamaktam, par l'arrivée de Vendredi, qui prend un autre nom et qui génère aussi une sorte de déplacement de l'amour pour le personnage de Farah, qui n'avait pour amour et objet d'amour inconditionnel qu'Arcadie. Et je trouve que c'est assez intéressant, l'amour présenté comme le dogme ultime, s'il y en a un dans Liberty House, se transforme, se conjugue autrement pour Farah, elle prend aussi de la liberté, tout en continuant, je disais en introduction, à tenir bon cette idée selon laquelle l'amour existe. J'ai l'impression qu'elle elle renouvelle la promesse, Farah, que l'amour existe.
Oui, alors c'est vrai que à plusieurs reprises dans le récit, on a l'impression que son amour pour Arcadie sera éternel et en tout cas est inconditionnel. Et c'est vrai que j'avais envie de montrer que finalement, à 15 ans, on peut pas vouer un amour exclusif à une seule personne. Forcément, le désir mute, évolue et elle va aller finalement d'objet de désir en objet de désir, tout en conservant son amour, un amour très absolu et très pur pour Arcadie. Mais Arcadie la déçoit. Et la communauté des adultes qui l'entourent, qui sont des gens finalement sympathiques, bienveillants, qui effectivement ont construit leur communauté sur l'amour libre, l'accueil, la solidarité, ils sont mis à l'épreuve par l'arrivée d'un étranger noir dont ils ne veulent absolument pas. Et en l'occurrence, finalement, Liberty House est une sorte de petit microcosme qui reflète le macrocosme.
Ce qui est beau dans le roman, c'est le fait de parvenir à créer des personnages dont la conscience n'est pas adéquate au réel. Tout simplement, je crois, parce que le roman est un des, la romanesque est un des lieux où on peut considérer, on peut arriver à percevoir le fait que profondément, le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de nous. Le réel, c'est ce qui ne nous rend pas nécessaire, parce que le réel est là de toute manière. Quoi qu'on fasse, le réel est là. On n'a pas besoin de le soutenir. Et dans le roman, je trouve qu'on peut prendre conscience de ce fait, c'est-à-dire puisque le réel n'a pas besoin de nous, alors tournons vers ce qui a besoin de nous. Qu'est-ce qui a besoin de nous ? Le possible a besoin de nous, en revanche. Parce que si on ne soutient pas le possible, il n'est pas certain que ça soit encore possible. Et j'aime beaucoup l'idée que les personnages de roman sont au fond là pour soutenir contre le réel une possibilité. Je pense qu'il y a eu tout un moment où la fiction, notamment la fiction occidentale, a situé le possible dans l'espace, sur la Terre. Et donc, il y a toutes les utopies. Par exemple, la création de l'utopie du non-lieu, c'est le fait que la fiction ou la littérature projette du possible, une société possible, qui n'est pas la société réelle, elle la projette dans l'espace. Puis à partir du moment où la Terre a été complètement cartographiée, c'est-à-dire les zones inconnues, les blancs se sont réduits comme peau de chagrin, il fallait projeter le possible ailleurs. Et je pense que c'est en ce sens aussi que la science-fiction est née, parce qu'il n'était plus possible de projeter le possible sur la Terre, donc on l'a projeté hors de la Terre, dans l'espace, et puis on l'a projeté dans le temps, on l'a projeté dans l'avenir.
C'est la voix de Tristan Garcia pour terminer cet entretien. Emmanuel Bayamaktam, il est au micro de Christophe Onodibio dans Le Temps des Écrivains en 2016 sur France Culture. L'idée que la littérature est là pour les choses dont... Comment dire ? Pour les choses qui auraient besoin de nous, et ces choses qui auraient besoin de nous, ce seraient les possibles. Est-ce que vous diriez que vous avez écrit un roman des possibles avec Arcadie ?
Oui, j'espère. En tout cas, ça me parle, ce que nous venons d'écouter. Je pense qu'on aurait tort de décréter la fin du roman et de considérer que c'est un genre finalement qui a fait son temps et qui n'a plus rien à dire ni à opérer. Moi, je pense qu'au contraire, du fait de sa liberté, de son caractère polymorphe, lui-même transgenre, il a beaucoup à dire et à faire entendre. Et effectivement, oui, je fais advenir impossible. Parce que on est avec Liberty House, on est à la fois, je l'ai situé très précisément géographiquement parlant, mais en même temps, on n'est pas tout à fait dans un réel déjà advenu. Même si je me suis inspirée de communautés existantes, il est clair que on n'est pas tout à fait dans la réalité.
Vous êtes inspiré de communautés existantes, mais est-ce que vous avez pensé à l'idée de d'utopie, de ce, parce que bon, on a parlé très rapidement de la Robinsonade et des références littéraires, mais cette idée-là d'un lieu utopique, y compris politiquement, c'était dans les motivations du roman?
Oui, oui, les utopies m'intéressent. Hein. C'est pas la première fois que je parle de zones à défendre ou de. Je me rappelle avoir écrit un livre qui s'inspirait de confréries millénaristes, hein, la confrérie du libre-esprit, où déjà finalement au Moyen-Âge, il y avait des gens qui essayaient de vivre autrement. Sur le plan romanesque, c'est extrêmement intéressant. Ces micro-sociétés d'individus qui essaient de se donner d'autres règles sociétales et de penser les choses un petit peu autrement, même si l'utopie souvent se fracasse.
Ce qui est un peu le cas dans le roman, on n'a pas été jusqu'au bout de la description de ce qui arrive à la communauté pour laisser un peu de découverte au lecteur, mais bon.
Alors je suis pas sûr, effectivement, il y a eu au moins une utopie qui se fracasse, mais voilà, l'utopie est morte et vive l'utopie. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que je laisse à la fin du récit l'espoir que d'autres utopies ressurgissent via Farah en particulier.
Bah bien sûr, hein, ces derniers mots, bon, là on dévoile rien, mais ces derniers mots sont l'amour existe et on sent bien qu'elle est absolument vive, cette utopie-là, voire révolutionnaire, pour en revenir à ce que vous disiez, la forme du roman n'a pas fini d'avoir des choses à dire et peut-être à produire. Le dernier chapitre s'appelle « Non sans humour, l'insurrection qui vient », c'est un titre d'un livre éminemment politique du comité invisible. Est-ce que le roman n'a pas non plus fini de sa possibilité révolutionnaire ? En tant qu'il sème justement des possibles, donc éventuellement, je sais pas, de générer de l'action chez les gens, du mouvement, du changement, des insurrections.
Alors j'espère, hein, je sais pas si c'est trop optimiste que de l'espérer, mais il est évident que le roman et la fiction ont des choses à dire que ne sont pas capables de faire les écrits scientifiques, par exemple. Et si la lecture, cette expérience solitaire, radicale, peut déstabiliser et amener le lecteur à finalement un peu se décentrer ou accéder à des un peu d'altérité ou à se penser différemment ou à penser le monde différemment, bah oui, ce serait tout à fait souhaitable.
Vous enseignez encore?
Oui, j'enseigne encore dans un lycée de la très proche banlieue parisienne.
Et alors, vous avez l'impression que ça opère ou pas chez les jeunes gens que vous avez en face de
quoi,
vous
dans récit, la fiction? Ouais. Du coup, peut-être terminer sur une note assez négative.
Moins positive.
Moi, j'ai beaucoup d'élèves et d'étudiants, parce que j'enseigne aussi en BTS dans mon lycée, qui n'ont même plus accès à la fiction. Ne parlons pas de la lecture, ni les séries, ni le cinéma ne les intéressent.
Eh bien, alors on leur mettra votre livre et les autres dans les mains si on peut, car l'amour existe. Il s'appelle Arcadie, c'est publié chez POL. Et puis je refais une piqûre de rappel pour les jeunes gens étudiants qui veulent s'inscrire au prix du roman France Culture Télérama. Merci beaucoup, Emmanuel Bayamaktam.
Ben, merci à vous, Marie-Richaud.
Au son ce soir, c'était Cédric Châtelus à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et absolument quand vous voulez sur franceculture.fr pour réécouter cette émission, pour trouver la liste des musiques diffusées, aussi pour nous écrire, pour s'abonner au podcast. Enfin, c'est extrêmement riche ce que propose comme expérience franceculture.fr. Je remercie Romain de Bec-de-Lièvre, Lou Quevauvilliers, Jeanne Aléos et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission et je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.
And Arcadia, never saw I such a scene of such fair maids upon such remote degree, where they employ their holiday with dance and game and things I may never name. In Arcadia, in Arcadia, where he said he was your teacher, he taught you true and wise. Well, now you know more than your teacher. See nothing but cool self-regard in your eyes. In Arcadia, but you see how twisted it becomes. You see how quickly twisted it becomes. And the cat guard binds my ankles to your bedstead. Well, that ain't love, no, that ain't love.
said he was your teacher and he taught you true and wise. But now you know more than your teacher, see nothing but cool self-regard in your eyes. In Arcady, in Arcady.
In Arcady,
in Arcady, your life trips along. I'm pure and simple as the shepherd's song. A few seraphic pipes along the way. In Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady.